Merci à vous tous qu'on poursuive la discussion à travers la table ronde. Et donc j'ai demandé à André Benbassa de venir diriger cette table ronde, Sophie Guillaume qui est présidente du Collège national des sages-femmes, Bernard Hédon qui est président du Collège national des gynécologues-obstétriciens et le docteur Michel Speffler qui est président de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Et Richard Bédoc également qui fera des propositions par la suite.
Bon, je vais donc, je suis le docteur Benbassa, je vais modérer cette table ronde. Je n'ai pas tellement de qualité pour m'exprimer sur cette table ronde, si ce n'est que je suis administrateur de Gynécologie sans frontières, qui organise cette quatrième journée humanitaire sur la santé des femmes. Je suis donc particulièrement bien entouré. À mon extrême gauche, il y a mon ami Bernard Hédon, qui est président du Collège national des gynécologues obstétriciens français. À ma gauche également, Madame Irène Kahn-Bensaud, qui est vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins. À ma droite, Madame Sophie Guillaume, qui est présidente du Collège national des sages-femmes. Et enfin, Madame Michèle Scheffler, qui est, bonjour, qui est présidente de la Fédération des gynécologues médicaux, c'est ça ?
Présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale.
Très bien. Donc, avant de donner la parole à ces personnalités qui m'entourent, je voudrais, peut-être pour lancer le sujet, faire une remarque à la suite de l'intervention de M. Henrion. Dans son rapport de 2000, qui comportait plusieurs étapes, cinq étapes, la première étape, et ça a été un des mérites de ce rapport, c'est d'établir un peu un état des lieux, des connaissances sur les violences faites aux femmes. Et la deuxième étape était la renforcer la formation des médecins. Or, on voit que le sujet de la table ronde, c'est en France aujourd'hui, le soignant est-il apte à reconnaître et prendre en charge les femmes victimes de violences au sein et en dehors des familles ? D'après ce qu'on vient d'entendre ce matin, on n'en est pas encore arrivé là. Par contre, il y a un élément d'espoir qui est aussi une enquête qu'il a signalée, qui m'a particulièrement intéressé et qui ne m'étonne pas. Bien qu'effectivement, les étudiants en médecine sont en majorité des femmes, en gros, plus de 90% des étudiants en médecine qui ont assisté à ces entretiens par le téléphone 3919 étaient intéressés par ce qu'ils avaient entendu, par cette prise en charge possible. Donc la jeune génération qui va exercer bientôt est particulièrement intéressée par ces problèmes de violence sexuelle. Mais la réalité, on l'a saisi ce matin, la réalité c'est que dans l'exercice professionnel, lorsqu'on est installé, quel que soit son mode d'activité, c'est beaucoup plus difficile d'être apte à reconnaître et apte à prendre en charge. Voilà donc le thème de cette table ronde qui sera suivie de discussions qui compléteront ce qui a été dit tout à l'heure. Donc je vais donner la parole à pile ou face, à gauche, à droite. L'ordre des médecins, ça me plairait.
Oui, alors je voudrais intervenir un tout petit peu parce que j'ai subi des violences ce matin en tant qu'ordinale pour rappeler que les médecins sont soumis au code de déontologie, lequel code de déontologie est dans la loi puisqu'il est inclus dans le code de la santé publique. Que dans ce code de déontologie, il y a deux choses importantes. Le secret professionnel. Nous sommes libérés du secret professionnel lorsqu'il y a maltraitance. Article 4127-44 du Code de santé publique et article 226-14 du Code pénal. Le Code de déontologie dit le médecin doit et le Code pénal dit le médecin peut. Nous pouvons signaler au procureur de la République lorsqu'il y a une maltraitance, donc une violence, lorsque c'est un mineur de moins de 18 ans et lorsque c'est une personne vulnérable. La femme enceinte est considérée dans le code pénal comme une personne vulnérable. Donc, le médecin peut signaler. En revanche, il ne peut pas signaler au procureur de la République si c'est une femme qui, il est vrai, elle est sous emprise par son mari, mais elle est majeure, elle vote, et donc c'est au médecin à donner l'adresse d'une association, à pousser la femme à aller porter plainte, à éventuellement l'aider. Et je voulais dire une autre chose sur les certificats. Un certificat est « je certifie avoir constaté ». Donc un médecin ne peut pas dire « je certifie avoir constaté des troubles anxio-dépressifs liés à un harcèlement au travail ». Car, à preuve du contraire, il n'était pas sous les lieux du travail. Donc, de même, il peut pousser la personne qui est harcelée à aller porter plainte, auquel cas le dossier médical de la patiente sera saisi par la justice et auquel cas il y aura une enquête. Donc voilà ce que je voulais dire. Moi, ça fait, et sur la formation des médecins, moi, ça fait 12 ans qu'au Conseil national de l'ordre, et je suis présidente du Conseil de Paris, je m'efforce de les former pour la rédaction de certificats et le signalement pour la maltraitance de l'enfant. Je suis pédiatre et je suis contente que quand même quelques personnes aient parlé des enfants dans ces situations de violence qui sont extrêmement atteints. Donc ça fait 13 ans. Nous faisons des réunions. Il y a 23 000 médecins à Paris. Nous avons 17 000 adresses mail. Nous envoyons 17 000 papiers comme quoi nous allons avoir cette réunion. Et la dernière où il y avait des personnes extrêmement intéressantes, nous avons eu 65 personnes. Donc voilà où on en est maintenant. Comment mobiliser les médecins? Je n'ai pas la réponse.
Quelle est votre formation? Est-ce que les soignants sont aujourd'hui aptes à reconnaître et prendre en charge?
Je crois que j'ai assisté à une conférence du professeur Bersch, doyen de Descartes, qui parlait de la formation de médecine qui est excellente, l'excellence française, mais qui notait qu'il n'y avait ni sciences humaines ni sciences sociales. Et je pense que c'est aussi toute la notion et la prise en charge de la santé en France. On est très dans le curatif et pas dans le préventif. Et là, aujourd'hui, il faut faire du dépistage, et donc on n'est pas forcément bien formé. Donc je vais reprendre là ma casquette de présidente du Collège national des sages-femmes, et je vous remercie qu'on soit à cette table. Les sages-femmes ont cette profession médicale, non médecin, mais qui a une spécificité de la prise en charge de l'affect, du corps et de l'environnement. Ça fait partie de notre formation initiale, de cette vigilance à la globalité de la prise en charge. Alors, oui, on est relativement bien formés. Il y a la formation continue aussi. On a parlé beaucoup de l'entretien prénatal précoce. Il y a un référentiel de formation qui a été fait. Et cette formation, c'est essentiellement des techniques de communication qu'on n'a pas forcément en formation initiale. Et je peux vous dire... Alors déjà en France, 2005, l'entretien prénatal précoce, l'enquête nationale périnatale de 2010, 20% réalisée en France. Alors elle n'est pas systématiquement proposée, même si c'est le texte, on le sait très bien. Quand on fait des enquêtes, et il y a des sages-femmes, des étudiants sages-femmes qui ont fait des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'il en était sur ce point, nombreuses des femmes disent « on ne m'en a jamais parlé ». Donc, il y a un outil, il y a de la formation. Donc, avant de créer de nouveaux textes, de plein de choses, je pense qu'il faut vraiment mettre en œuvre ça. Et donc, ça, c'est important. Par rapport au couple, je rejoins ce que dit Monsieur Matisse. Le fait qu'il y ait un mari qui soit très présent, qui répondent à tout, c'est un signe. C'est un signe, et l'entretien prénatal précoce aussi s'inscrit dans un réseau de professionnels. Il n'est pas question que ce soit un temps isolé, parce qu'on n'en fait rien du tout. Il doit être transmis avec l'accord de la patiente, bien évidemment, aux professionnels qui suivront la grossesse. Et puis, s'il y a un dépit, s'il y a un éveil, quelque chose, de lui proposer des rendez-vous avec des acteurs du monde social, associatif ou médecin, parce qu'il y a ces besoins aussi. Donc ça, c'est vraiment un point important, et je crois qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus. Et le couple, ce n'est pas forcément un obstacle.
Je peux vous interroger à propos de l'entretien du quatrième mois. Bon, effectivement, il est assez peu pratiqué, 20% selon la dernière enquête périnatale. J'ai souvent entendu qu'il était assez facile de reconnaître au cours de cet entretien des difficultés sociales, psychologiques, de toute nature. Et en particulier, vous dites qu'on est enfin, les sages-femmes, qui font, en général, c'est elles qui font les entretiens, sont aptes à reconnaître éventuellement des violences sexuelles. Mais la question, c'est la prise en charge après. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, la difficulté, c'est l'aval de cette prise en charge. Comment va-t-on faire une fois qu'on a repéré? Et là, c'est compliqué.
Tout à fait. Ça ne va pas se faire en un temps, sauf s'il y a vraiment, elle va porter plainte ou quelque chose. Mais il y a de l'information. C'est pour ça que je vous dis aussi de mettre l'entretien prénatal précoce en place. C'est avoir une réflexion en amont sur de quoi on a besoin, c'est quoi les ressources qui doivent être mobilisées après. Donc, suivant, ça se fait au niveau de l'échelle locale, on doit avoir son annuaire de professionnels, de ressources pour pouvoir aider après, c'est certain.
Donc, par le fait d'un réseau, inévitablement.
Au moins, le ville-hôpital, le réseau régional, tout dépend. Mais oui, la notion de réseau est indissociable de l'entretien.
D'accord.
Vous dire que au niveau de la gynécologie médicale, je pense qu'en France, nous sommes le lieu tout de même d'une entente très très fréquente et de témoignages de nos patientes, que notre rôle, bien sûr, c'est de les accompagner, c'est de les aider à trouver un chemin de réparation. Donc ça, c'est notre quotidien. On ne peut pas forcément parler en grand public. Je pense que l'absence des médecins aujourd'hui n'est pas le fait qu'ils ne s'intéressent pas aux violences faites aux femmes, et notamment dans le domaine des médecins gynécologues et des obstétriciens, et des médecins généralistes, parce qu'effectivement, ils y sont confrontés quotidiennement. Ils ne sont pas là peut-être aujourd'hui parce que, par manque de temps, je suppose, mais en tout cas, sachez que dans le cadre de nos formations, et certainement que GSF nous a aidés aussi à reprendre ce pas. En tout cas, depuis, je dirais, 3 ans, tous les collèges de gynéco de France ont fait des formations dans le cadre des violences faites aux femmes, et aussi se sont rapprochés, ben, justement, des structures administratives, des structures d'État, pour essayer de créer des réseaux, de manière à ce qu'on ne soit pas démunis, comme le disait très bien Madame Guillaume, qu'on ne soit pas démunis face à une prise en charge un peu aiguë dans le cadre d'une urgence. Mais il y a aussi la prise en charge au long cours, parce qu'il faut savoir que beaucoup de femmes ont très peur de quitter leur conjoint, elles ont très peur d'être à la rue. C'est la précarité principalement qui les motive. Elles vont supporter énormément parce qu'elles savent que si elles quittent ce conjoint, elles seront à la rue. Donc ça, c'est une grave problématique, et je m'inquiète beaucoup, non seulement pour les jeunes femmes, mais aussi pour les personnes plus âgées qui aujourd'hui arrivent à l'âge de la retraite, qui vont, si elles devaient quitter leur conjoint, eh bien, être dans des difficultés majeures. Donc il y a quand même des problèmes aussi d'ordre pratique et technique qui fait qu'aujourd'hui, ça reste très complexe. Donc ça, c'est mon point de vue en tant que témoignage de notre action dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la prise en charge, pardon, des violences faites aux femmes. Sachez qu'on est sur le terrain et depuis longtemps déjà, et on continue bien sûr, et on est très 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 content que ça s'améliore et qu'au niveau national, au niveau politique, toutes ces lois arrivent. Et je remercie Monsieur Henrion qui nous a aussi beaucoup aidé à avancer dans ce domaine. Je voudrais simplement donner aussi un témoignage, enfin un regard sur la situation. Nous parlons beaucoup des femmes. Je pense qu'il faut aussi parler des hommes. Je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une problématique masculine. Et il faut absolument qu'on trouve une solution. Il faut qu'on se penche sur ce problème. Donc moi, je considère que la gynécomède est un petit peu l'interlocuteur, et les sages-femmes le seront aussi avec les travaux qu'elles vont mettre en œuvre, je le pense, et on va travailler ensemble à ce sujet. Je pense qu'il faudrait trouver l'équivalent de la gynécomède, enfin en tout cas que ce soit fléché pour les jeunes gens, pour les jeunes hommes, pour les hommes aussi, un lieu où ils pourraient consulter et parler de leurs problématiques sexuelles. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas ce lieu-là. Ils l'auraient au travers de la médecine générale. Et je pense que mes confrères médecins généralistes, peut-être pour certains, en tout cas ceux qui se sentent proches de cette prise en charge, bien sûr, vont se former, je l'espère, et pourront aussi être fléchés comme étant peut-être effectivement des médecins, des psycho-victimes, comme c'était dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment qu'on avance sur ce sujet. Aider certainement aussi au niveau de l'éducation. L'éducation, c'est bien sûr à l'école, mais à mon avis, c'est aussi aux parents. Il faut aider les parents à trouver les mots pour leurs enfants. C'est à plusieurs niveaux, et le rôle éducatif est essentiel. Aujourd'hui, du fait des médias, justement, je pense qu'il faut qu'on les retourne dans l'autre sens, les médias, et qu'on se serve de spots télévision pour informer sur la vérité des couples et qu'on n'ait pas une vision complètement biaisée, fausse par rapport à ce qu'est la vie d'un couple, qui bien sûr au quotidien est toujours difficile pour tout le monde, mais il faut savoir aussi apprendre à arrêter un engrenage de la violence. Ça, ça me semble essentiel aussi. Ça peut s'apprendre par des jeux de rôle, par des petits jeux à l'école. On peut aussi apprendre, ou même à l'âge de l'adolescence, apprendre à arrêter l'engrenage de la violence, parce que beaucoup de couples se déchirent alors qu'en fait, ils ne devraient pas se déchirer. Si à ce moment-là, de leur moment de difficulté, on trouvait les mots, on trouvait les appuis pour s'en sortir. Donc il y aurait déjà beaucoup, à mon avis, de violences qui n'existeraient pas si on apprenait les mots qui vont faire qu'un couple va trouver l'harmonie ou la retrouver. Voilà, donc c'est toutes ces pistes, et les commencer tôt, à mon avis, chez les enfants, en aidant les parents aussi, et certainement flécher une consultation pour les plus démunis. Dans quelques jours, dans le cadre de mon collège, on va faire justement notre thème, c'est sur l'andrologie. On va ne parler que des hommes pendant toute une journée, dont le thème de l'hypersexualité. Il faut savoir quand même qu'il y a aussi parmi toutes ces personnes qui violent les femmes, il y a des personnes malades qui ne se reconnaissent pas comme étant malades. Donc il y a la partie à la fois éducative où on franchira le pas peut-être un moment parce que personne ne lui a appris qu'il ne fallait pas franchir le pas. Et puis il y a ceux qui réellement sont malades. Et là aussi, il faut bien sûr leur apporter un secours et qu'ils sachent où aller, qu'on n'attende pas qu'ils aient 40, 50 ans. Et c'est vrai que ça existe parmi mes confrères médecins. J'ai des confrères médecins gynécologues qui sont en prison aujourd'hui pour ça. Hein, donc, c'est vous dire que c'est tout un travail qui va loin. Et il faut donc nous aider, nous entraider, trouver des moyens d'améliorer la situation et surtout aussi l'aide de nos confrères psychiatres qui me semble importante. Merci.
Merci. Je rebondis sur un mot que vous avez évoqué, c'est éventuellement les jeux de rôle. Faire un inconduire ou aider une personne à évoquer ses difficultés et les violences dont qu'elle subit, ça peut passer, il faut un certain entraînement. Alors, j'ai entendu ou j'ai lu très récemment qu'à l'université de Nantes, il y avait des jeux de rôle qui étaient mis en place avec des vrais acteurs. Qui joue le rôle de patient, et puis, ça permet peut-être de progresser parce qu'on n'est pas forcément formé à cela. C'est aussi les groupes Balint, enfin, où toute évocation d'une difficulté en groupe, de façon à échanger, c'est beaucoup plus facile et ça permet peut-être d'avancer. C'est assez enrichissant en tout cas.
La formation sur l'entretien, c'est des jeux de rôle.
Oui.
Il y a le groupe, mais je crois aussi vraiment à l'entretien. Je crois aussi vraiment fondamentalement à l'entretien individuel parce que j'ai participé aussi à des travaux en centre de planification. J'ai été pendant un moment médecin dans ces structures. Et c'est vrai que l'information d'un groupe, c'est très bien de la faire, mais il faut aussi un moment que la personne s'identifie à la problématique. Et pour s'identifier à la problématique, il faut que cette personne soit en dialogue singulier avec une personne face à elle qui va l'écouter, qui va l'aider à être prise en charge. D'où l'intérêt, effectivement, aussi de développer un lieu fléché de consultation.
Eh bien, Bernard. Bien, je suis le dernier de cette table ronde allongée à prendre la parole, mais je vais le faire avec tout autant d'humilité que les autres, au nom des gynécologues obstétriciens du Collège national, tout simplement parce que le constat a été clairement fait et je ne peux que m'incliner devant ce constat, à savoir que l'on n'est pas suffisamment sensibilisé et surtout pas assez formé pour bien être sensibilisé à la recherche des causes, des facteurs de risque, des dépistages de ces violences. Effectivement, ça a été considéré pendant longtemps comme étant un problème qui appartenait à d'autres, peut-être aux psychiatres, peut-être aux travailleurs sociaux, mais pas aux gynécologues, c'était pas de la médecine. Et indéniablement, je le touche du doigt encore plus après cette matinée qui était vraiment extrêmement éclairante et passionnante. Je comprendrais bien que le médecin général et le gynécologue, quel que soit son mode d'exercice, ou la sage-femme, soient à des moments clés où ce dépistage peut avoir lieu, à condition, bien sûr, de ne pas passer à côté. Et de ce côté-là, le mot-clé, c'est celui de la formation. Alors, comme Roger Henrion l'a dit, le collège n'a pas jamais rien fait. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses, puisqu'on s'est associé au rapport. Il y a des écrits qui ont été faits. Il y a eu déjà des interventions au sein de nos journées. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'est pas suffisamment fait et qu'on doit faire plus. Bon, je rappellerai que par une coïncidence heureuse, nous avons invité la ministre, Madame Najat Vallaud-Belkacem, à intervenir le vendredi 13 décembre, donc à nos journées nationales, et elle a accepté le principe de cette intervention en espérant qu'elle ne sera pas à nouveau prise par un débat parlementaire sur un sujet important. On est conscient que ça peut ne pas se faire à la dernière minute, mais elle a là une tribune devant 2800 gynécologues pour pouvoir parler de ça et faire prendre conscience, comme moi j'ai été invité aujourd'hui, et je me considère comme privilégié à écouter ces débats et à toucher du doigt que c'est un point important que l'on a peut-être un petit peu trop négligé, qu'il ne faut plus négliger. Il y a aussi d'autres occasions, notamment on ne cesse d'écrire à nos membres un certain nombre de recommandations sous forme parfois de ce qu'on appelle les recommandations pour la pratique clinique, mais ça c'est une méthodologie particulière, mais en tout cas de guides pratiques. On a écrit par exemple comment agir devant une patiente qui se recommande des témoins de Jéhovah et donc qui refuse une transfusion sanguine, et ce genre de choses extrêmement pratiques. Donc de la même manière, on pourrait mettre à notre programme un guide pratique de dépistage des violences, de recherche des facteurs de risque, de sensibilisation aux moments cruciaux, celui de la grossesse, enfin un certain nombre de choses que j'ai entendues ce matin, qui, atteignant directement nos collègues, parce qu'ils lisent ces guides, ils lisent ces recommandations, surtout quand c'est édité par leur société savante qu'est le collège, et ils sont très, très attentifs en général à les suivre. Donc voilà un certain nombre de pistes, et je m'associe à ce qu'a dit Michel Scheffler pour les gynécologues médicaux concernant le développement de programmes spécifiques, de développement personnel continu, qui là aussi contribueront à atteindre nos collègues. Voilà, donc je disais, le mot-clé c'était effectivement humilité, mais aussi détermination, conviction que c'est un sujet important. Et qu'il faut que désormais on se mette nous aussi dans le mouvement qui s'est inscrit au fil des ans et que M. Henrion décrivait comme n'étant pas, ayant déjà des résultats, et on va s'associer désormais à cette action et aux futurs résultats.
Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, puisque vous êtes en train de dire ce que vous faites ou ce que vous allez faire, je tiens quand même à signaler qu'il y a le Conseil national de l'ordre émet un bulletin à 230 000 médecins, que nous avons eu un bulletin il n'y a pas très longtemps consacré pratiquement aux violences envers les femmes, que les départements le font aussi, et que je ne suis pas aussi persuadée que vous que les médecins les lisent.
Je suis sage-femme à l'hôpital Loumourier à Colombes et en fait, je suis référente pour les violences conjugales. J'ai été formée par le réseau 92 Nord, ainsi qu'un autre médecin gynécologue et le docteur Crène, qui travaille dans la maternité, et une psychologue qui est Lydie Lopez. Donc on est à trois à avoir été formés par le réseau. On a eu la formation par les jeux de rôle des personnes qui sont venues de Nantes pour nous expliquer, c'était très formateur. On a eu donc deux journées plus une période de repos, on va dire, où on a retravaillé et on est revenu deux journées. Et c'est vrai qu'il faut le temps que nous, en tant que personnes, on se rende compte aussi, parce que ça bouge à l'intérieur de nous au niveau personnel, comme ça a été dit depuis le début de la matinée, des résistances, des compréhensions et des incompréhensions, de savoir que c'est pas forcément un problème de couple, mais un problème d'une personne qui domine une autre, et que c'est plus normal. Et quand on a saisi ça, on est un meilleur professionnel pour pouvoir poser la question à la femme, parce que poser la question, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Nous, à l'hôpital, c'est pareil, hein, on est assez surchargés dans les consultations. Et quand on pose la question ouverte en disant « Est-ce que dans votre vie, vous avez eu déjà, vous avez rencontré des problèmes de violence, que ce soit quand on reçoit un couple aussi, en entretien du quatrième mois, moi je fais aussi l'entretien. J'ai été aussi formée pour l'entretien, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Il n'y a pas que les sages-femmes qui peuvent être formées, c'est aussi les gynécologues, les médecins généralistes. Et que quand la femme n'a pas le temps ou c'est pas proposé dans certaines maternités parce que il n'y a pas le temps ou le personnel nécessaire pour ouvrir une consultation comme ça, la femme, dans son parcours de soins, elle doit savoir comme rencontrer une sage-femme dans un premier temps si elle ne trouve pas de gynécologue ou elle n'en a pas, comme avoir accès à cet entretien-là, il peut être fait en ville, en PMI, auprès d'un généraliste. Et dans la formation qu'on a faite par le réseau, il y avait des généralistes qui étaient là, il y avait des qui font partie du réseau. Voilà, donc ce temps-là, il est de 45 minutes, il est remboursé complètement par la Sécurité sociale, et quand le couple est là, on peut toujours, en posant la question, on le pose aussi au mari, enfin au couple, est-ce que vous deux, dans votre vie, ils viennent pour leur enfant, vous avez eu des violences, que ce soit dans votre vie de l'enfance, personnelle, au travail, enfin c'est tout confondu, et quand on la pose de façon ouverte, en étant persuadé que ils vont peut-être nous répondre oui et que ça ne va pas être jugé ou quelque chose qui nous embête, eh ben, ils répondent souvent oui et parfois non, mais ils vont revenir après en sachant que les affiches sont importantes aussi, ce qu'ils les voient dans la maternité. Et sinon, on dit qu'on travaille en réseau et qu'il y a la psychologue. D'accord. Et voilà, donc ça suffit.
On note simplement qu'à l'enquête périnatale, 80% des patientes enceintes n'avaient pas accès à l'entretien périnatal précoce.
Bonjour, je m'appelle Lucie Guilbault, je suis la présidente de l'AGOF et je représente donc les internes de gynécologie obstétrique français. Donc je crois qu'effectivement le vrai problème repose sur le manque de formation. Je pense qu'il y a eu un progrès parce que déjà au cours du second cycle, effectivement, il y a un item qui a été intégré. Et je parle en connaissance de cause car moi j'ai passé le CN en 2009 et il y avait un sujet d'une jeune femme qui avait été violée de 19 ans. Il y avait tout un sujet sur les violences faites aux femmes. En revanche, c'est vrai que quand on arrive dans le troisième cycle, là où on est vraiment sur le terrain, on voit les patientes aux urgences, en consultation, là il n'y a plus du tout aucune formation. Pourquoi ? Parce que notre formation elle repose quand même beaucoup sur un compagnonnage. Alors je pense que nos seniors eux-mêmes n'ont pas été formés, donc sont incapables de nous délivrer la formation nécessaire. Et je pense qu'au cours de nos 5 années d'internat, ce serait pas mal de voir comment on pourrait organiser une formation en début d'internat plutôt, ne serait-ce qu'une ou deux journées, et afin d'être sensibilisé sur le sujet avec des acteurs de la prise en charge des violences faites aux femmes, parce que nos seniors accoucheurs, obstétriciens ou chirurgiens n'ont pas eu cette formation, donc ne peuvent pas nous aider. Voilà.
Pardon ? Je voudrais vous donner une petite piste, peut-être, au fond, puisque tout à l'heure j'ai parlé des centres d'orthogénie, qui sont à peu près dans tous les hôpitaux, et c'est une vraie spécialité. Et là, on est extrêmement régulièrement, en tant que gynécologue, en tant que sage-femme, confronté à ce type de situation. Donc, venez faire vos stages en centre d'orthogénie. Et je pense que ça peut être intéressant.
Effectivement, c'est un peu la même chose sur l'orthogénie. On est très peu formés. Et d'ailleurs, on est en train d'organiser pour la première fois avec la GOF une journée de sensibilisation des internes qui aura lieu le 29 mars normalement avec l'aide du docteur Fauché qui travaille à l'hôpital Trousseau. J'espère que ça va marcher. C'est la première fois qu'on l'organise et voilà, pour sensibiliser les internes à ce sujet. Tout à fait.
Il y a plusieurs mois, la décision qu'on a prise d'organiser cette journée, c'était en février. Et quand en février, on a fait ce choix, après une grande et longue réflexion interne de sujet, on était loin de penser que notre décision d'aborder ce sujet allait être relayée de cette façon-là. Ce matin, on assiste à vraiment, je trouve, une accumulation d'envie, d'initiative, et puis de sentiments d'incompétence, d'incompréhension. C'est une longue séance d'autoflagellation des soignants, je trouve. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est là aujourd'hui et on se rend compte, on prend conscience des insuffisances essentiellement en formation initiale et en formation continue qui sont les nôtres. Mais c'est le premier pas pour ensuite progresser et avancer. Quand on a donc réfléchi à mesure que les mois passaient, eh bien, on a essayé de formaliser quelques propositions que je vais vous soumettre. Et évidemment, et on en est ravis, bon nombre de ces propositions se retrouvent dans le plan ministériel qui a été proposé. Et là encore, c'est un encouragement puisque il va y avoir une synergie qui va se faire. Et cette synergie, elle sera d'autant plus forte que vous avez vu succéder aujourd'hui toutes les sociétés de périnatalité de France. Et celles qui ne sont pas là ont validé également ce manifeste. Et ça va initier, je l'espère, tout un mouvement. La Société française de médecine périnatale n'est pas là, la Société française de pédiatrie n'est pas là non plus, mais s'associe à notre démarche. Et ça, c'est un signal, je trouve, extrêmement fort, au même titre que Mme Buffetot, qui nous fait le plaisir d'être là, de rester là. Et ça aussi, je trouve, c'est un signal qui est très fort. Hein. On a un ministère des droits des femmes qui s'empare du problème, qui lance un plan ambitieux. Eh bien, nous, soignants, on veut prendre notre place dans ce plan. Et c'est ça le signal d'aujourd'hui, c'est que toutes les sociétés, tous les acteurs de la périnatalité en France, on est là pour participer. Alors évidemment, il va y avoir de la formation, évidemment, on va être confronté à nos lacunes, mais ce n'est pas parce qu'on craint de ne pas savoir bien faire qu'il faut ne pas regarder. Donc, on se retrousse les manches. Alors, les colloques régionaux. Donc c'était notre deuxième projet. Donc les colloques régionaux de sensibilisation, ça va se retrouver dans le plan puisque ce sont les ARS qui vont coordonner au niveau régional la mise en réseau des différents acteurs. Au sein de ces réseaux, nous autres professionnels de santé, on va prendre notre place. Et toutes les questions qu'on avait dans la salle pour savoir, moi je suis une association, moi je suis à tel endroit, je ne sais pas comment faire, et bien effectivement, ce sont les ARS et c'est la MIPROF qui va essayer de coordonner, de faire du réseau. Mais là encore, le signal qu'on envoie, c'est de dire, nous autres soignants, on est là et on va aider, participer. En tout cas, GSF est désireux de participer à cette structuration régionale de réseau, notamment en organisant des colloques régionaux. Là encore un point abordé. Le troisième point, un référent médical au sein des hôpitaux de référence dans chaque région de France. Bien sûr qu'il faut qu'au sein des structures hospitalières, on ait un endroit isolé, fléché, connu, des soignants qui disent « Ah, il y a un patient ou une patiente qui présente un problème lié aux violences, c'est la personne qui va être référente. Il va y avoir des unités pilotes qui vont se mettre en place. Et ça aussi, ça va structurer la démarche de soins au sein des hôpitaux. Un point capital. On travaille tous avec des dossiers de suivi obstétrical. On pose tous la question, madame, est-ce que vous buvez ? Madame, est-ce que vous droguez ? Madame, est-ce que vous fumez ? Eh bien, la proposition, c'est que dans chaque dossier, c'est « Madame, avez-vous déjà été ou êtes-vous toujours victime de violence ?» Ça, demandez à chaque patiente enceinte, écrit dans le dossier. Là encore, ça, on en a longuement parlé, tous les sujets... les travaux, les mémoires, les thèses sur les violences faites aux femmes. Et ça aussi, ça concerne les médecins, gynécologues, les généralistes, etc. Les sages-femmes également, au sein des IFSI également. Il faut vraiment qu'on ait, que ça pullule de travaux pour que la bonne pratique se diffuse. La formation initiale, là aussi, c'est déjà fait dans les arrêtés, puisque la décision d'inclure cette formation initiale dans les maquettes a été prise. Septième proposition, des protocoles hospitaliers qui pourraient même entrer dans le cadre de l'accréditation pour qu'il y ait vraiment une démarche vertueuse au sein des hôpitaux pour justement structurer cette réponse. Recenser et synthétiser les outils déjà publiés, mais ça, la MIPROF a fait un travail de fourmi extrêmement long pour tout ça. Là aussi, on peut prêter main forte. Et enfin, enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France. Les enquêtes épidémiologiques, c'est nécessaire, hein, puisqu'il faut vraiment avoir un suivi. Et une proposition qui avait été faite par M. Henrion et qui était, c'était de recueillir exhaustivement chaque décès d'une femme victime de violence. Et pourquoi pas diffuser ces résultats-là, les diffuser de façon régulière, au même titre que chaque année, on dit, voilà, il y a tant de personnes qui sont tuées sur la route. La main qu'on veut tendre et qu'on veut afficher vis-à-vis de toutes les femmes, c'est de dire, nous autres, soignants de la périnatalité, on est là. Alors voilà le point numéro 1, qui est le manifeste donc, de lutte contre les violences. Nous, médecins et représentants des professions médicales, nous nous engageons à soutenir les actions de dépistage, de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences. Nous, médecins et représentants des professions médicales, nous engageons à nous mobiliser, nous informer, nous former, à nous rapprocher des réseaux de lutte contre les violences au sein du couple pour participer à la protection des femmes et de leurs enfants. Conscients aujourd'hui de notre rôle prioritaire, nous adressons ce message aux femmes en danger. Vous êtes les victimes, nous sommes à votre écoute et nous sommes là pour vous aider. Et ce message-là, il va être
diffusée et médiatisée dans la foulée de ce colloque aujourd'hui, signé par le Collège national des gynécologues obstétriciens de France, qu'on remercie, le Collège national des sages-femmes, qu'on remercie. Oui, les sages-femmes ont un rôle prioritaire là-dedans, bien sûr. La Société française de médecine périnatale, la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, l'Ordre des médecins, l'Association des gynécologues obstétriciens en formation, bien sûr. Hein, Lucie, tu nous disais qu'il n'y a pas dans la formation initiale. Oui, et évidemment que ça doit se diffuser. La Société française de pédiatrie également qui est présente. Tous, on se retrousse les manches et on travaille. Voilà, je vous remercie.